Mercredi 4 mars 2020, il est 18h au micro, Diallo Mariama Kenda, le journal en français, c'est maintenant. Bonsoir à messieurs, dames, à la une de ce journal. Un séminaire autour du coronavirus s'est tenu ce matin à Niamey sous la présidence du chef de gouvernement. Le ministère de la Santé publique prépare la population nigérienne à faire face à la pandémie. Le premier ministre, chef de gouvernement dans ce journal. Célébration ce mercredi 4 mars 2020 de la journée mondiale de l'exploitation sexuelle. Nous irons dans ce journal à Maradi où plus de 90 cas d'abus et de viol sur mineurs ont été enregistrés en 2019. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, rencontre des difficultés dans sa mission politico-économique. Adamu Oumarou, ancien membre du conseil régional des jeunes de la CEDEAO, donne des éclaircissements sur la situation de l'institution. C'est dans la partie magazine de cette édition. Bienvenue à tous. Le ministère de la Santé publique a organisé ce matin au Palais des Congrès de Niamey un séminaire autour du coronavirus. C'est avec l'appui des partenaires stratégiques du gouvernement, selon le Premier ministre qui a présidé la rencontre. Les spécialistes de la pandémie fourniront des éclaircissements sur le coronavirus afin de préparer le Niger à faire face à la maladie. Propos de Brigitte Raffini, recueillis par le studio Kalangou.
Il s'agit au cours de cette séance de faire appel aux spécialistes du domaine pour nous édifier davantage sur les tenants et aboutissants de cette épidémie, de cette pandémie j'allais dire, et permettre au gouvernement du Niger de faire face à ce grand défi. L'Afrique n'est pas épargnée. Nous sommes déjà à 6 pays, dont 2 de la CEDEAO. Nous sommes frontaliers avec 2 pays touchés, au nord et au sud. Donc le Niger est très préoccupé de prendre toutes les mesures possibles pour préparer le pays à cette terrible maladie, pour comment nous pourrions la prévenir efficacement. Et le cas échéant, si ça devait nous arriver, comment traiter les différents cas.
Le monde entier célèbre ce jour 4 mars la journée mondiale de l'exploitation sexuelle. Pour les initiateurs, il s'agit de sensibiliser les décideurs à prendre des mesures drastiques contre ce phénomène qui prend de l'ampleur. À Maradi, 93 cas d'abus et de viols sur mineurs ont été enregistrés en 2019 selon le responsable du service de la protection de l'enfant de la dite ville. Maliki Malin Abdou est au micro de Mohamed Maman.
Cette activité, c'est un délit, et ça c'est connu de tout le monde, je parle sous le contrôle des juges. C'est porter atteinte à la vie de l'enfant, surtout des enfants mineurs. Par conséquent, c'est un phénomène qui devrait être décrié. Au niveau de la région de Maradi, nous avons les données de l'année 2019 sur le cas des enfants et avec dossier, dont le nombre est de 625. Et durant l'année 2019, nous avons les cas d'abus et viols. Nous avons totalisé 93 cas. Toutefois, il faut dire que ce sont les cas qui nous sont prévenus dans nos services au niveau des départements et au niveau de la ville de Maradi. C'est surtout les cas des enfants dans l'âge varié de 0 à 18 ans et que nous avons pu compiler. Mais ce qui est sûr, c'est surtout les jeunes adolescentes vers l'âge de 13 voire 15 ans qui sont les plus affectés.
Depuis la dernière semaine, les élèves du Centre de formation professionnelle et technique CFPT de Birnin-Konyi, région d'Ottawa, observent une grève illimitée. Ils dénoncent leurs conditions de travail et exigent des autorités le paiement sans délai de leurs 6 mois de pécule non perçus à ce jour. Le point de leur situation avec Annafi Ahmed, le commissaire aux comptes du bureau de leur structure. Il est au micro d'Asman Arzika.
La raison de notre débrayage est que nous sommes confrontés à plusieurs difficultés. Nous avons l'insuffisance des tables bancs. Deuxièmement, nous avons un problème d'eau potable. Troisièmement, les élèves n'ont pas reçu leur allocation. Il y a même ceux qui ont bouclé leur cycle et sont partis sans percevoir leur allocation de 2 mois. Voilà, nous qui sommes arrivés, nous comptabilisons 6 mois d'arriéré. Nous avons crié pour qu'on nous paye. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Au début, nous avons commencé à observer des grèves de 2 jours. jours. Et jusqu'à présent, aucune réponse. Puis, nous avons reconduit 2 autres jours de grève. Toujours rien. C'est le 4e préavis. Et nous allons continuer à observer des grèves successivement de 3 jours, 3 jours, si rien n'est fait. C'est ainsi que nous allons poursuivre le combat.
À Gaya, région de Dosso, de nombreux parents d'élèves ne suivent pas l'évolution scolaire de leurs enfants au niveau des établissements, une situation qui génère les mauvais résultats scolaires des apprenants, selon certains proviseurs. Je vous propose d'écouter à ce sujet les propos de quelques responsables d'établissements scolaires de Gaya. Ils sont au micro de Fadel Alou.
À la maison, deux fois, les parents ne contrôlent pas ce que les enfants font. C'est uniquement quand les compositions sont terminées, quand on va commencer à remettre les bulletins, que les parents peut-être vont venir. Certains ne récupèrent même pas les bulletins. Et c'est après, quand l'enfant n'a pas travaillé, c'est en ce moment-là qu'ils vont commencer à nous demander « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors que la scolarité de l'enfant doit être suivie régulièrement. À la maison, chaque fois, il faut observer d'abord, est-ce que cet enfant-là, il n'a pas de devoir? Est-ce qu'il a fait ses devoirs qui lui sont demandés d'être faits à la maison? Si ce n'est pas fait, il faut insister. Ce qu'on fait à l'école-là, ce n'est pas largement suffisant.
Crise des universités publiques suite à la grève d'un mois engagée par les enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur depuis le 20 février. Le gouvernement a assigné le SNEX devant le juge des référés du tribunal de grande instance hors classe de Niamey pour déclarer cette grève d'illégale. Le délibéré est prévu cet après-midi à 15h. Le Niger a été admis à l'ITE, Initiative pour la transparence des industries extractives, le 13 février dernier. Dans une conférence de presse hier à Niamey, le président du dispositif national de mise en œuvre de l'ITE a déclaré que des experts et la société civile participeront au processus pour garantir la transparence sur la gestion des industries extractives du Niger avant la prochaine validation en 2021. Propos de Hamadou Adamou Soulé, recueilli par Asmana China.
Le secrétariat fonctionne au minimum. Nous avons décidé d'étoffer ce dispositif en recrutant le personnel qu'il faut, parce que c'est un travail qui requiert beaucoup d'expertise, et nous avons décidé de faire appel à ces expertises qui existent déjà au Niger et qui peuvent faire le travail. Nous allons également tout mettre en œuvre pour que la société civile, la plateforme de la société civile, puisse participer pleinement. Donc, nous avons décidé également d'un plan de communication visant à faire découvrir d'abord l'ITE. Nous allons vulgariser le contenu du processus.
Des criquets pèlerins affectent l'Afrique de l'Est depuis plusieurs mois. 9 pays sont déjà touchés, à savoir entre autres l'Éthiopie, la Somalie et la Tanzanie, où ces criquets menacent déjà la sécurité alimentaire. Selon l'Agrimet, l'invasion pourrait s'étendre davantage si elle n'est pas maîtrisée. Les détails avec Mokhtar Rahima Sadou de l'unité information et communication de l'Agrimet au micro de Raïla Toussoumana.
Les criquets pèlerins en train de faire des ravages au Kenya et dans quelques pays aussi de l'Afrique de l'Est. Ils risquent de dévorer tout ce qu'il y a comme verdure dans beaucoup d'hectares, dans les champs par exemple, et ils vont pondre des œufs avant de continuer leur chemin, puisque c'est toute une armée, les criquets pèlerins. Donc, quand ils pondent les œufs, la meilleure solution, c'est d'essayer de détruire leur production à la source, donc dans le sol, en appliquant les pesticides au niveau des œufs, parce que dès qu'arrive la saison pluvieuse, ils vont être régénérés.
Est-ce qu'il y a des risques que cette invasion puisse atteindre le Niger?
Il y a des risques, puisque c'est vraiment un phénomène vraiment pas facile à saisir. Aux dernières informations que nous avons reçues, on n'a pas pu maîtriser la situation. C'est aussi peut-être lié au changement climatique. Il s'adapte aussi au changement climatique.
Est-ce que le Niger aussi prévoit de prendre des dispositions pour que cela ne nous atteigne pas?
Oui, en permanence. À part notre institution, il y a même beaucoup de centres aussi qui prennent aussi des dispositions, qui sont spécialisés aussi dans la lutte anti-acridienne.
Selon le site Science et Avenir, les experts attribuent cette attaque de criquets à des variations climatiques extrêmes. Pour combler les lacunes des audiences foraines, l'article 201 du code électoral en cours au Niger autorise l'enrôlement des Nigériens ne disposant pas d'un document d'état civil sur la base de la déclaration de l'individu et du témoignage du chef de la concession ou du ménage dont il relève. Pour l'acteur de la société civile, cet article ouvre la voie à un enrôlement exagéré au-delà des 5% admis par les normes internationales. Écoutons Michael Zodi au micro de Habibou Garba.
Quand vous allez lire le code électoral, vous allez constater que cet article fait même référence à un autre article 102 qui n'a rien à voir avec l'enrôlement par témoignage qui fait cadre dans l'observation de la Cour constitutionnelle. Au tout début, il n'y avait pas cet article-là. Mais après, au fur et à mesure, les gens ont constaté qu'un nouveau code a émergé où il y a cet article-là. Les normes internationales limitent à 5% l'enrôlement par témoignage. Mais aujourd'hui, on constate que les gens ont dépassé largement les 5%. Ils sont à 25 à 30% des gens qui se sont enrôlés par témoignage. Donc, ça touche la crédibilité du processus électoral.
Les 5% en question, c'est les 5% de l'enrôlement général ou bien les 5% par aire ou bien par localité?
C'est les 5% des électeurs qui se sont fait inscrire sur le fichier biométrique. Mais aujourd'hui, on a largement dépassé. Ça veut dire que le fichier est tout sauf fiable. Nous sommes en train de s'acheminer vers un fichier qui ne sera pas consensuel et aussi qui ne répond pas aux normes internationales.
Tous les jours, écoutez les programmes du studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada.
Et Studio Kalangu au rythme du Niger.
La partie magazine de ce journal à présent, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest rencontre des difficultés dans sa mission politico-économique. Adamu Oumarou, ancien membre du Conseil régional des jeunes de la CDAO, nous donne des éclaircissements sur la situation de l'institution. On l'écoute.
Nous tous, on donne des coups de fouet au principe de la CDAO. Parce que, en réalité, on avait créé une institution fédérateur des États pour que nous travaillions ensemble, qu'on puisse vraiment avoir une communauté de la CDAO, réduire, enlever ces barrières de distance qui nous ont été imposées par la colonisation, être des États, une communauté, et non avoir cette idée d'État derrière là. Et quand vous prenez aujourd'hui, il y a tout un panoplie de structures qui ont été créées aujourd'hui au sein de la CDAO pour le respect de ces textes. Et aucun État n'a le droit de pouvoir changer quelque chose dans ce protocole additionnel de la CDAO de 1979 sans l'accord de tous les États membres de la communauté de la CDAO. C'est normal aussi parce que des fois, quand les gens refusent aussi de participer au financement comme il le faut de cette institution, le Nigeria, en grande partie étant la plus grande puissance de cette communauté, essaye d'imposer sa politique, sa loi, ce qui fait vraiment mal. Et même les autres pays sont en train d'en pâtir, par exemple quand je prends le Burkina Faso, le Mali, etc., parce que c'est des pays enclavés. Donc l'économie va mal, les droits humains sont bafoués dans notre espace.
Que ce soit la Guinée-Bissau ou bien la Guinée-Conakry, comment est-ce que vous voyez la position de la CDAO à travers ces deux dossiers?
Nous devons revoir en réalité comment respecter beaucoup de choses. Même la question des mandats, il y a des pays qui ont refusé de ratifier la charte de la CDAO par rapport à ça. Et lorsque des présidents qui eux-mêmes ne respectent pas la constitution de leur pays, ne respectent pas les protocoles ou les accords signés entre les États, c'est normal.
Pour vous aujourd'hui, le manque de président modèle empêche l'émission de la CDAO?
Empêche l'émission de la CDAO d'accomplir. Et ce ne sont pas des missions d'objectivité. Il faut avoir des missions d'objectivité pour le peuple et non pour un clan, non pour un président, non pour une opposition, non pour une société civile qui est là pour le peuple. Il faut qu'on ait des responsables au sein de cette communauté qui sont là pour le peuple, qui savent pourquoi ils ont été élus, pourquoi le peuple les a témoigné leur confiance et qu'ils jouent leur rôle véritablement. C'est en ce temps que la CDAO, en tant que force économique de l'Afrique, peut jouer véritablement son rôle.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.